Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie.
D'abord, bonjour Sir Abdallah, merci beaucoup pour l'accueil.
Et merci pour l'invitation.
Et nous, on se connaît plus ou moins, mais ce travail est destiné à des gens, à un public large, qui ne te connaît pas forcément. Donc, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites?
Oui, je m'appelle Abdallah Herzani, tu l'as dit. Je suis sociologue. J'ai commencé ma vie active en 1970-71 à peu près.
Sardel, tu es né où et dans quel genre de famille?
Alors, je suis né dans une famille de paysans dans la province d'Azilal, la commune de Tenant. J'ai vécu sur place pendant 2-3 ans. Mes parents ont émigré et je suis devenu donc plus ou moins citadin, avec des passages par plusieurs villes. Parce que mon père était dans les forces auxiliaires. Il avait quitté le bled bien avant ma naissance. Il s'était engagé dans l'armée. Il est revenu ensuite au bled. Il était en mésentente avec ses frères et il est parti. C'est comme ça que nous avons quitté donc le bled, et depuis ce temps-là, on a traîné dans plusieurs villes au Maroc.
Et la maman, elle n'avait pas de travail particulier?
Non, c'était une femme au foyer, également originaire de la même zone. Et c'était une femme au foyer.
Tu es fils unique ou non?
Ah non, non, je suis de... Nous étions 9 dans la famille, 9 enfants, et je suis le premier cadet, après mon frère aîné, ma sœur aînée. Mais au total, nous étions 9.
L'éducation à la maison, c'était quel genre d'éducation que tu as reçu chez toi, dans la famille?
Alors, c'était, disons, une éducation de type traditionnel dans l'ensemble. Mon père était assez autoritaire en tant que chef de famille. Et j'ai vécu, disons, sous cette autorité, mais difficilement, parce que je ne l'acceptais pas facilement. Parce qu'il avait effectivement un comportement de type plutôt autoritaire. Dans certains cas, il n'avait pas tort, parce que, comme on dit, il y a eu quelques bêtises. Donc, sinon, ce qui est assez curieux, c'est que je n'ai passé dans la mosquée que quelques semaines. Il était plutôt libéral, c'est-à-dire que on n'était pas forcé à faire la prière, etc. Bien que lui, il fût assez religieux quand même, parce qu'il faisait sa prière à haute voix le soir, la nuit, le bon matin, ce qui me réveillait parfois. Mais nous, on était vraiment libres sur ce plan-là.
Il y avait des livres à la maison?
Oui, il y avait des livres, parce qu'il y avait mon frère aîné qui avait été à l'école, ma sœur également, donc ils avaient un certain nombre de livres. Ça me permettait de lire un peu en dehors de ce qui se faisait en classe.
Ta sœur a fait l'école.
Oui.
Donc le côté conservateur de la famille n'a pas empêché de scolariser les filles.
Non, non, mon père, il avait cette particularité, c'est que pour lui, la valeur suprême, c'était l'instruction. D'ailleurs, il a appris lui-même à écrire et à lire. Et qui lui a appris ça, ce sont mes deux aînés, mon frère et ma sœur. Mais comme en même temps il était autoritaire, il leur disait « si je me trompe, tu me frappes
». Et donc, la première école primaire, c'était où?
C'était
la première entrée à l'école, je veux dire, oui. Ça a commencé où?
C'était à Guercif.
Oui.
Dans l'Oriental, pendant un an à peu près. Ensuite, à Sfron. J'ai fait tout le primaire à Sfron.
D'accord.
Alors, c'est tout ?
Non, vas-y.
Ensuite, nous sommes allés à Casablanca. Nous avons passé 2 ans, je suis un peu casablancé. Ensuite à Mohammedia, c'est là où je suis allé à l'internat.
D'accord.
Alors après, j'ai fait mes études à Rabat avant d'aller 2 ans à Paris.
Et l'internat, c'était pourquoi ?
Parce qu'il n'y avait pas de cours de second cycle du secondaire à Mohammedia, nous habitions. J'avais juste fait le premier cycle. Et je suis allé à l'internat à Casablanca pour le deuxième cycle.
Donc ce qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée.
C'est ça, le lycée, oui, jusqu'au baccalauréat. Nous étions la première promotion à passer le nouveau baccalauréat, qui a succédé au baccalauréat de type français avec les 2 années. Baccalauréat première année, baccalauréat deuxième année. D'ailleurs, j'avais fait baccalauréat premier, je m'étais présenté comme candidat libre pour le bac premier.
Ouais.
Et puis le second, enfin le dernier, c'était le baccalauréat type nouveau régime.
Quand tu es scolarisé dans l'école publique.
Oui, c'était un lycée public. Oui. Depuis le départ, c'était public. Le primaire, ce qu'on appelait le cours complémentaire à l'époque, l'équivalent du premier cycle, du secondaire. Ensuite, le deuxième cycle à Casablanca.
Tu gardes des souvenirs particuliers de l'internat ?
De l'internat, dans l'ensemble, ça s'est passé normalement. Je n'ai pas de souvenirs spécifiques, particuliers.
Et par rapport à l'ambiance, le côté peut-être politique, je ne sais pas, un peu contestataire, peut-être un peu...
Non, à l'époque, c'était juste... C'était le début. C'était le début, parce que moi, j'ai quitté le lycée en 63. Je suis venu à Rabat, 63. C'était une période relativement mouvementée, parce que l'année 63, c'était l'année où des membres de l'opposition ont été arrêtés, parce qu'ils avaient été accusés de fomenter un coup d'État. Et en 65, j'étais ici à Rabat. Mais au lycée, c'était juste les premiers, 62-63, c'était les premières réclamations relativement, disons, modérées des élèves, des écoles. Mm-hmm. Et ça a commencé sérieusement à partir de 63, 64, 65, etc.
Il y a des gens de la famille étaient concernés en 63 par le mouvement, peut-être la répression, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de la famille était concerné ?
Non, pas vraiment. Pas
63.
Vraiment. En 63, pas vraiment. Ce dont je me souviens, c'était en 61. C'était ma première année à l'internat et c'était la mort de Mohamed V. Évidemment, il y a eu un effet sur tout le monde. Cette mort a eu un effet sur tout le monde. Étant évidemment triste, etc., pendant un certain temps.
Ça a eu un impact sur toi, sur comment tu as grandi après ?
Je pense que ça a dû avoir un certain impact, parce que j'avais été très marqué par cette mort. Un peu par, je crois que c'était plus par imitation qu'autre chose. Je voyais tout le monde triste autour de moi, chagriné, etc. Et donc, ça m'a marqué.
Tu es un peu emporté avec tout le monde, enfin, dans l'émotion.
Voilà.
D'accord. Le baccalauréat, c'était quelle discipline ? Maths ou littérature ?
Non, c'était lettres.
C'était lettres.
Qu'on appelait lettres modernes.
Surtout
du français.
Et ce choix-là de faire lettres, c'était un choix personnel ou un hasard ou c'est une orientation ? Comment ça se passe ?
Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que j'ai choisi, je crois, lettres modernes.
T'aimais la littérature ?
J'étais attiré par la littérature, par la lecture de manière générale.
Plutôt lecture de textes, de livres francophones ou arabophones ou tout, il y avait un choix
surtout francophone, parce qu'on a eu une instruction essentiellement francophone, malheureusement. Le primaire, pour ce qui est du primaire par exemple, je me souviens de rien du tout. Je me souviens d'un prof, je me souviens même de son nom et de son chapeau. Mais je ne me souviens pas du tout du contenu. Le contenu, je me le suis fait moi-même après.
Oui.
J'ai repris les manuels de grammaire, d'histoire, etc. en arabe. Et je m'y suis remis un peu tout seul.
Tu l'as fait pendant le lycée? Après,
je l'ai fait pendant le lycée, oui.
Et donc, tu passes par les années 60, tu as ton bac un peu pendant les années 60, et après, c'est l'université.
À partir de 63, à Rabat, à la fac des lettres.
C'était pour faire quoi
C'était pour faire quoi? En fait, j'avais obtenu une bourse pour faire de l'économie à Fès.
Ouais.
Parce que dans les choix, parce qu'on nous demandait de faire un choix, des options. Et donc, en premier, j'avais mis agronomie en France, parce qu'à l'époque, on n'enseignait pas l'agronomie ici, en économie et en philosophie. Parce qu'en fait, j'étais très attiré par la philosophie. Alors, donc j'ai eu cette bourse, mais je ne suis pas allé à Fès. Je suis venu à Rabat, où j'ai pu obtenir, où je me suis engagé à l'ENES, l'École nationale supérieure,
ouais.
Où on était considéré déjà comme des fonctionnaires. Parce que dans le contrat, il était question de 8 années d'enseignement après les études.
Enseignement primaire, hein, pour faire
non, mettre. Enseignement du secondaire.
Du secondaire,
secondaire.
Professeur.
Licence, avec obtenir la licence et enseigner, donc enseigner au lycée.
Et tu as gardé la bourse, même en allant sans aller à la fête, t'as quand même.
Non, c'était le traitement de l'État,
ouais.
aux élèves professeurs.
Derrière ce choix, il y avait une envie de devenir enseignant. Vous étiez dans une situation de pauvreté, tu préférais avoir rapidement un salaire. C'était quoi? Qu'est-ce qui a conditionné ce choix?
C'était un peu les deux, je crois. Il me semble que c'était un peu les deux, parce qu'on avait un traitement, il n'était pas fabuleux, hein. Il était un petit peu plus que la bourse, mais... c'était pas grand chose en fait. Mais finalement, c'est parce que finalement, je me suis dit de toute façon, je ne peux pas faire les trois, hein, agronomie, philosophie et sciences économiques, donc je fais la philo. C'est comme ça. Je me suis installé à Rabat pour suivre des cours de philosophie. Puis il y a eu la création de l'Institut de sociologie, qui n'a pas duré longtemps, tu le sais peut-être. Et donc j'ai suivi aussi des cours de sociologie.
Je peux conclure que ton enfance était plutôt une enfance pauvre.
Mm-hmm.
Oui.
Oui, pauvre, mais pas très pauvre, disons. Oui. Disons que c'est un peu de la classe moyenne inférieure.
Oui.
On n'était pas, on n'était pas vraiment dans le besoin, mais on pouvait satisfaire nos besoins élémentaires, mais sans plus.
D'accord. Et donc, d'abord, le diplôme, j'imagine que tu as obtenu une licence.
Oui, une licence et des certificats de sociologie. Je n'ai pas pu obtenir la licence parce que l'institut a été supprimé. A été fermé au bout de 2 ans.
Ouais.
Deux ans.
Donc, tu as fait le certificat de
la licence de philosophie,
ouais.
Et deux sur trois, en sociologie, à l'Institut de sociologie.
Est-ce que pendant, c'est un peu pareil que je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport au lycée, est-ce que à l'université, tu as rejoint un mouvement étudiant, tu étais contestataire?
Non, je suivais ce qui se passait, mais je n'étais pas un militant. J'avais du recul par rapport à ce qui était en train de se passer. À l'époque, il y avait deux partis qui étaient un peu de l'opposition qui étaient un peu rivaux. Et je suivais un peu ce qu'ils faisaient, mais je n'étais pas engagé avec eux.
Mais tu avais une vision, quelques convictions politiques.
C'est certain, j'étais plutôt de ce côté-là.
Côté gauche.
C'est sûr, côté gauche, oui.
Oui.
Oui, oui. Alors ça, c'est sûr. Oui.
D'accord. Et donc, une fois que tu as eu ta licence, après, tu as...
Après, je suis allé à Paris. J'ai obtenu une bourse de l'UNESCO. J'ai passé 2 ans à Paris.
De l'UNESCO ?
Oui. J'ai passé 2 ans à Paris, les études de 3e cycle en sociologie, à la Sorbonne et à l'école des hautes études. L'école pratique des hautes études, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque.
C'est l'école des hautes études actuellement.
Voilà.
Oui. Des études de sciences sociales. Tu as fait une thèse de 3e cycle.
En fait, j'ai tardé à obtenir ma thèse parce que pendant les 2 années, alors là c'est différent parce que là je m'étais engagé, effectivement.
Ouais.
Et donc on travaillait beaucoup avec les ouvriers. Et bien sûr, je lisais, j'apprenais, etc. Mais finalement, durant les 2 années, je me suis dit que j'avais surtout besoin de terrain. Je n'avais plus envie de faire une thèse simplement sur une base livresque. Je voulais être sur le terrain. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas essayé de rester plus longtemps. Je suis rentré au Maroc. Et c'est au Maroc que j'ai préparé ma thèse, véritablement.
Toujours à Paris, la thèse était réalisée dans quelle université ? La Sorbonne ?
À la Sorbonne.
À la Sorbonne, oui. De sociologie ?
Sociologie, oui.
C'était quoi le sujet ?
C'était sur l'aménagement hydro-agricole, sur les disparités sociales et spatiales engendrées par l'aménagement hydro-agricole. D'ailleurs, c'est le titre exact, je crois, c'est l'aménagement hydro-agricole de l'État Sorte. C'est une zone qui est dans la région de Marrakech. Disparité spatiale et sociale, c'était le titre.
Et c'était dirigé par qui ?
Ballandier.
Ballandier, oui. Et soutenu en quelle année ?
86. Donc c'était devenu... Ce n'était plus une thèse de 3e cycle, mais la thèse doctorale, nouveau origine, de 83, je crois.
Oui, oui, c'est ça, c'est 83, je crois. Oui. Donc la thèse est soutenue en 86, à la Sorbonne. Et t'étais engagé professionnellement, ton premier travail, tu l'as pris à quel moment et où?
Alors, quand je suis rentré, c'était avec l'idée de travailler. Donc, ce qui m'était offert, c'était un terrain d'office de mise en valeur agricole.
Ça, c'est avant la thèse, hein, on est d'accord. C'est les 2 ans, après les 2 ans passés à Paris, tu rentres.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'on t'a fait.
Je suis rentré en 70 et ça a été le début de la vie active pour moi. Donc j'ai finalement été engagé à Marrakech parce que j'avais été à Rachidia, parce que c'est là où je devais travailler, mais je ne me suis pas entendu avec le directeur. Et au bout de 2 jours, je suis parti. Et j'ai appris que parce qu'on cherchait quelqu'un pour travailler à l'office du Haouz, c'est comme ça que je me suis engagé à l'office du Haouz. À l'époque, il était directeur de l'office. Et c'est là où j'ai passé 15 ans, pratiquement, donc plus longtemps que je ne souhaitais au départ, avec quand même une déconvenue importante, c'est que je pensais qu'en travaillant dans un office, j'allais pouvoir faire facilement de la recherche sur le terrain. Mais en fait, j'ai rencontré des difficultés. Au point que, à certains moments, j'ai joué à cache-cache avec le caïd, qui m'a carrément dit « Tu viens pour un travail, tu n'as pas besoin de revenir. » Donc, c'était difficile de faire une recherche dans ces conditions-là. Alors, je n'ai pas fait... Ce que j'aurais aimé, c'était faire un travail de type anthropologique, qui demande évidemment une présence assez longue, des visites fréquentes, etc. Donc, je n'avais pas cette possibilité. Et je me suis rabattu sur un travail proche de ce que j'étais en train de faire. Je m'étais occupé des droits d'eau. C'était dans le cadre de l'aménagement, il était question d'exproprier ce qu'on appelle ici les droits d'eau acquis avant l'indépendance, qui restaient des droits privés. Et avec l'aménagement, il était question de procéder à des expropriations pour que l'eau devienne publique. Et donc, c'est le travail que j'avais fait dans le house les premières années. Ensuite, ça a été des travaux d'évaluation ex ante pour la préparation d'autres projets de type hydro-agricole dans d'autres zones du house de Marrakech, dans la région de Marrakech. Et quelle était la question en fait à ce niveau-là?
C'est pas grave, on va oui. Revenir, mais c'était à peu près ça la question. Quand tu rencontres Paul Pascon,
oui.
C'était une chance?
Oui, certainement. Certainement, c'était une chance pour moi. Je garde surtout l'aspect humain de Paul Pascon. C'est quelqu'un qui vous mettait à l'aise dès le départ. Ce n'était pas du tout le genre mandarin, etc., au contraire. Et ça, c'est un aspect quand même très important qu'on rencontre rarement.
Il t'a apporté quelque chose par rapport à la méthode, par rapport au contenu, par rapport à la formation?
Alors, justement, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect humain, mais sur le reste... Je me souviens, le seul conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, quand tu veux commencer quelque chose, donne-toi le délai. Tu vas travailler aujourd'hui sur quelque chose, tu te dis, à 16h, il faut absolument que j'arrête. C'est le seul conseil dont je me souviens, parce que lui, il pratiquait certainement tout cela, mais moi, j'ai jamais pu le faire. C'est le seul conseil qu'il m'a donné. Sinon, ce n'était pas des conseils, mais des échanges. Par exemple, j'écrivais quelque chose, je lui envoyais, il me répondait toujours avec des remarques en marge, etc. De manière tout à fait objective. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à avoir des suivants, en quelque sorte. Moi, je suis... la personnalité importante dans la zone et il faut que j'ai des disciples, etc. C'est pas ça du tout, c'est pas comme ça.
Il y a une question que j'ai jamais posée à personne, parmi les amis marocains. Est-ce qu'il y avait un groupie Paul Pascon?
Hein?
Un groupie. Les gens qui se revendiquaient aussi par rapport à l'extérieur, on est les gens de Paul Pascon. Les élèves, oui. peut-être pas les élèves.
Oui. Oui, mais lui-même, c'est ce qu'il aimait. Hein. Je ne me souviens plus de cet auteur russe. Il m'en parlait toujours. Parce qu'à l'époque, en fait, je m'étais engagé à l'office, mais je ne savais pas qu'il était en train de se préparer pour partir, pour aller ailleurs. Et il voulait en fait simplement... qu'il laisse sur place une relève. C'était un peu ça son idée, mais il ne l'avait pas dit jusqu'au moment où j'ai appris qu'en fait il était en train de se préparer pour partir. Alors, je disais que cet auteur, il évoquait cet auteur russe, vous devez le connaître, mais là je ne me souviens plus du nom, qui travaillait avec des jeunes à la campagne. Et c'était un peu son rêve aussi à ce moment-là, ce qu'il a fini par réaliser à travers essentiellement les stages de l'IAV qui ont une certaine renommée. C'était ça ce qu'il voulait faire en fait, et il a fini par le faire. Oui, alors, oui, la question des groupies. Alors, en fait, quand je suis arrivé, il était question de créer justement un groupe. Et l'animateur principal, c'était Paul. Et effectivement, on s'est retrouvés ensemble. Au départ, on était, si je me souviens bien, il y avait Abdallah Moudi, il y avait Khatibi, Mohamed Allaoui, moi-même, bon, c'est tout, je crois, et Najib Oudarbala. Oui, je crois que j'ai fait... Et Mohamed Chraibi, à l'époque. Parce que Mohamed Chraibi, c'est un ingénieur, mais il travaillait avec nous parce qu'en même temps, c'est lui qui a succédé à Paul Pascon comme directeur à Andrax, donc on était tout ce groupe-là. Et on a fonctionné pendant 2-3 ans. Il y avait des thèmes sur lesquels on discutait. Et il y avait des notes qui étaient rédigées par les uns et les autres sur des thèmes d'ordre sociologique.
Quand tu es entré à l'IAV, il y avait qui déjà et qui a rejoint assez vite après? Tu as rencontré qui? En gros, tu as qui dans les couloirs?
Avant d'en arriver là, je finis avec les groupies.
Oui.
C'est peut-être mieux. Parce qu'après, il y a de nouveau un groupe qui s'est constitué avec de nouvelles figures, sauf moi. Moi, j'avais été dans le premier, qu'on appelait BAT, c'est-à-dire recherche. Et le deuxième, c'était à partir de 79-80, je crois, 78-80, à Rabat. Moi, je venais de Marrakech, je l'ai rejoint ici. Il y avait Tosé. Qui encore
Arif.
Tosé Arif, qui est mort avec Paul Pascon. Naji, Mohamed Naji, et moi-même. Je crois que c'est tout, on était 4 ou 5, c'est bien ça. Et on a repris comme ce qu'on faisait avant dans le cadre du groupe BAT. On échangeait entre nous, etc. Ce groupe, je crois, il était en relation avec MLD aussi. Hein. Et voilà. Et par ailleurs, il avait encore un autre groupe autour de lui, auquel je ne participais pas. C'était le groupe du développement rural. Voilà, donc, en fait, il aimait toujours travailler en groupe. Il a eu aussi pas mal de collaborations avec d'autres collègues. C'est quelqu'un qui était toujours enthousiaste. C'est ça, je crois que une des marques de sa personnalité, c'est qu'il avait un enthousiasme qui pouvait facilement entraîner les autres. Et bien sûr, avec moi, je n'étais pas d'accord avec lui surtout. Hein, j'avais des critiques que je faisais, etc. Mais il n'empêche que il travaillait dans l'honnêteté intellectuelle absolue et toujours avec cet esprit combatif et compétitif.
Combatif et compétitif. Est-ce que tu te rappelles d'un sujet de divergence ou d'un point de vue sur lequel vous n'étiez pas forcément d'accord?
Ah oui, oui, c'est là où il m'a apporté quelque chose. Il aurait été d'accord, mais il n'a pas eu le temps de... Parce qu'à l'époque où je devais soutenir ma thèse, il était censé participer au jury, mais il est mort entre-temps. Et donc, j'avais fait des critiques sur certains aspects sur lesquels il avait travaillé. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas eu encore le temps de lire le travail, etc. On n'en a pas discuté, mais j'ai fait cette critique sur la théorie la théorie, comment il appelait ça déjà, la théorie de distribution, sur la distribution des eaux d'irrigation, je n'ai pas le titre exact, mais je peux le retrouver si ça vous intéresse. Et donc ça pouvait constituer un point de départ pour un échange sur ces aspects-là. Et je pense que ça l'aurait intéressé parce que ce n'était pas une critique qui voulait démolir un travail, ce n'était pas ça du tout. C'était le principe, si tu veux, de la réfutation. Tu as dit quelque chose, c'est bien, mais moi je réfute parce que j'ai trouvé autre chose. Donc c'était quelque chose d'enrichissant pour tout le monde. Je donne cet exemple, puisque tu m'as posé la question, mais en fait, on n'en a pas discuté parce que je crois qu'il n'a pas pu lire ou bien, de toute façon, il a disparu en ce moment-là.
Je propose qu'on revienne un peu en arrière, parce que parallèlement à cette évolution des études et professionnelles jusqu'à l'IAV, et donc... politiquement, moi je sais, je ne veux pas faire semblant, je sais que tu étais engagé, tu as même eu quelques ennuis pour ne pas.
Mais léger par rapport à d'autres.
Hein?
Léger par rapport à d'autres.
Donc j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce choix politique, cet itinéraire politique.
Oui, pas de problème. Alors, donc, comme je disais, j'étais un peu spectateur quand je faisais mes études à Rabat. Oui. Ensuite, je suis allé à Paris et j'ai rejoint des camarades là-bas du PPS, Parti du Progrès et du Socialisme, qui s'appelait le PLS, à l'époque où je m'étais engagé, c'est le Parti de la Libération et du Socialisme. Et donc... ça a été l'occasion pour moi, ça a été un très bon apprentissage, c'est une bonne école. J'aurais bien aimé que les jeunes d'aujourd'hui passent par ce genre d'école, parce que ça éduque sur beaucoup de choses. Et nous avons beaucoup travaillé, surtout avec les ouvriers à Paris, de Paris.
Des immigrés marocains ou tous les ouvriers
Non, des immigrés marocains, essentiellement. Puis je suis rentré au Maroc et en allant à Mrakech, j'ai continué dans mon engagement. Mais là, j'ai des regrets. Parce qu'en fait, les gens auxquels on s'adressait, c'était essentiellement des jeunes, et même des très jeunes. Mm-hmm. C'était des lycéens. Et quand on a été arrêté, j'ai beaucoup réfléchi, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quand même 2 mois et demi.
En quelle année?
C'était en 71.
D'accord.
De 71, le procès a traîné jusqu'en 73. Finalement, je ne sais plus ce qu'il y a eu, c'était un non-lieu ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était des jeunes et je me sentais très responsable de cette affaire parce que je me disais, des jeunes adolescents, les engager dans ce genre de choses sans véritable perspective, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Finalement, j'ai conclu que c'était une mauvaise chose. On n'avait pas à faire ça.
Ça, en prison.
Déjà en prison. Et donc après, quand on est sorti, je ne me suis plus engagé directement.
Juste avant, en prison, pourquoi tu es allé en prison?
En fait, c'était le moment où l'extrême gauche commençait à naître. La gauche de la gauche, quoi. Ouais. La gauche du PLS, du PPS et de l'USFP. Donc il a un âme, 23 mars, etc. C'était cette période charnière. C'était à cette période-là que je suis rentré et que je me suis installé à Marrakech. Et donc, il était question donc, de scission, en quelque sorte, au sein de tel ou tel parti, dans les deux cas. Et c'est dans ce courant-là que je me suis engagé, dans ce courant, disons, de scissionniste, pour la création d'autres partis, soit le 23 mars, soit le PP, le Hamal, ou avec le peuple. C'était les trois tendances.
C'était quoi les accusations? Pourquoi tu as été arrêté? De leur côté, au moins. Est-ce qu'on t'a dit pourquoi tu as été arrêté?
Ah oui, bien sûr.
C'était quoi?
On nous reprochait d'avoir distribué des tracts et de fomenter des troubles. C'était ça l'accusation. Et c'était juste avant la grande vague. Ça, on avait échappé vraiment de peu. Parce qu'on était les premiers de cet embryon-là d'extrême gauche. Ça s'est passé, ça a commencé au mois de mai. Mai 1971. Et la grande vague d'arrestation, etc., c'était en 72, à partir de février 72. Donc nous, on était un peu les premiers, on en a réchappé. Moi, j'ai pu simplement dire que je voulais créer moi-même mon mouvement, c'est ce que j'ai dit.
Ouais.
Et on a pris ça à la lettre, et ouais. on a pu en réchapper quand même. Parce qu'au lieu de 3 mois et demi qu'on a passé, on aurait pris 10 ans ou 15 ans, ouais, facilement.
Tu as passé 3 mois et demi. Pardon pour la précision, tu as été torturé.
Pardon? Ah oui, bien sûr.
Tu as été torturé.
Oui.
Et tu étais dans quelle prison?
À Marrakech.
Et tu as été arrêté avec qui? Il y a des gens qu'on connaît, des noms qu'on connaît qui ont été arrêtés en même temps que toi?
Il y a Khiari. Tu connais peut-être. Khiari, c'était le pilier du PPS à Marrakech.
D'accord.
Et nous, on était contre le PPS. Mais on a été arrêté pratiquement en même temps, aussi bien le PPS proprement dit que les autres. Est-ce qu'on nous a pris quand même pour le PPS? C'est quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est passé de cette manière. À part Khiari, tous les autres, c'était des jeunes. Des très jeunes.
Plus jeunes que toi.
Non, plus jeunes, des lycéens. Des lycéens, ils avaient 18, 17, 18 ans, moi j'avais à l'époque 24 ou 25. J'étais adolescent encore, en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je me dis, pas simplement maintenant, mais bien avant, je me dis que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais un peu plus de jugeote, je ne l'aurais pas fait. Donc je sais que c'est un peu spécial comme position, parce qu'il y en a qui disent aussi que le militantisme, il vit avec la... On est vraiment militant quand on a reçu la piqûre très jeune, adolescent. Ce qui n'est pas faux non plus. Bon, mais moi, je ne suis pas d'accord.
Tu n'es pas resté militant tout
Je ne suis pas resté militant politiste. Si tu veux, Jean-Paul. Parce que pour rester les militants en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Ils sont militants parce qu'ils veulent le pouvoir. Mmh. En gros, hein, je schématise peut-être, mais c'est un peu ça. Et il y a certainement un soubassement psychologique pour qu'un tel ou un tel veuille devenir militant. Et vise le pouvoir. Bon, il y a un soubassement psychologique, certain, à mon avis. Sans accuser personne, parce que c'est légitime à la limite.
Ouais.
Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Si on n'a pas ce genre de profil psychologique, on peut pas faire l'histoire. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour chercher un pouvoir, quel qu'il soit. Donc je préfère militer autrement. Je suis toujours de gauche, je peux le dire très haut, il n'y a pas de problème. J'ai milité autrement, soit par ce que j'ai pu écrire, soit dans le cadre de projets de développement local, des choses de ce genre.
Ça t'a jamais tenté un peu, à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est ce que je me disais, oui, ouais, bien sûr. Oui, c'était pour abattre le pouvoir existant et pour
prendre sa place.
Supplanter, oui, c'était ça, quoi.
Tu te rappelles à l'âge, à quel moment tu t'es dit « non, c'est plus pour moi
tu... » Juste après la sortie de prison.
D'accord. Oui. Donc, quelque part, ils ont réussi.
Est-ce qu'ils ont, ils ont réussi, ils m'ont sauvé.
Oui.
Moi, je le vois comme ça. Ils m'ont sauvé parce que c'était une bêtise de ma part. J'étais pas fait pour ça. Finalement, je me suis dit, bon, sois franc avec toi-même. Tu n'es pas fait pour ça.
Et ça, c'est là, un peu ce que tu avais avec toi en sortant de la prison. C'est cette conviction que ce militantisme-là, c'était pas pour toi.
C'est ça.
Et après, on peut arrêter d'être militant, mais on continue à être engagé, c'est ce que tu disais.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Tu penses que tu étais un chercheur engagé ?
Oui. Oui, alors ça, je l'ai toujours été, je le suis toujours, y compris dans la vie quotidienne, y compris maintenant, quand on discute, je discute en chercheur, je ne peux pas discuter autrement.
Ouais. Le citoyen engagé, on sait à peu près ce que c'est. C'est quoi un chercheur engagé ?
Un chercheur engagé, c'est quelqu'un qui cherche la vérité pour la dire. Alors la vérité, c'est quoi essentiellement ? C'est la recherche des causes. Il y a telle chose qui se produit, pourquoi elle s'est produite et pourquoi de cette manière ? Moi, je crois que c'est ça le chercheur, c'est essentiellement ça. Il cherche une vérité ou des vérités. Un philosophe chercherait peut-être la vérité. Moi, en tant que sociologue, je cherche des vérités. Il y a des choses qui se produisent, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi elles se produisent. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses.
D'accord. Ton itinéraire a été plutôt urbain, malgré le fait que tu sois né dans un milieu paysan. Tu fais de la philosophie, de la sociologie, Rabat, Paris, tout ça. Après, on te retrouve en sociologie, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, en sociologie rurale plutôt. C'est comme ça que je t'ai connu, moi, faisant de la sociologie rurale. Tu aurais pu être sur la sociologie urbaniste, tu aurais pu être sociologue du travail ou d'autres choses. Est-ce que tu sais ce qui t'a ramené, si je peux dire, au rural, puisque tu es né dans un milieu rural?
Non, parce qu'en fait, je suis toujours resté attaché au bled, à la campagne en général. La mienne, d'abord, bien sûr, puisque c'est là où je suis né. Et ce qui était très important, c'est que mon père nous ramenait en famille au bled pratiquement toutes les grandes vacances. Et c'est comme ça que je suis resté très attaché au bled et à la campagne. Donc il n'y a rien d'étonnant, même quand je rêvais de faire de l'agronomie, la philosophie, les sciences économiques, c'était un peu ça. Pourquoi l'agronomie ? Parce que j'étais attaché à la campagne. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était un peu ça, ce bouillant, l'économie, hein. C'est ce que je suis en train de faire, la sociologie rurale, sans être agronome. Ni philosophe, véritablement, bien que je sois toujours attiré par la philosophie.
Et la philosophie est toujours là ?
Oui. Elle fait partie aussi de ce que je disais tout à l'heure, la recherche de la vérité.
Parce qu'on parle des questions d'ordre philosophique qui se posent. Il n'y a pas une question à laquelle tu cherchais une réponse dans le milieu rural ou à travers le milieu rural, sociologie rurale. Ça n'est pas une question notamment sur la pauvreté, peut-être, je ne sais pas, hein, les conditions de la vie dans le milieu rural. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça qui t'intriguait, qui t'a poursuivi?
Non, alors, disons, en gros, c'est un peu un itinéraire, si tu veux. Je ne sais pas si c'est une façon de répondre à ta question, mais tu corrigeras si nécessaire. Disons, quand j'étais à l'office du Hawz, ça a duré quand même 15 ans. Je pensais juste à 5-6 ans au départ, et puis finalement, ça a été prolongé. J'avais fait un essai d'ailleurs pour aller à l'école d'une classe, où j'ai passé avec mon déménagement 2-3 jours. Puis je suis retourné à Marrakech, parce que on s'entend au départ, sur place, c'était en 77. Et donc là, j'ai travaillé surtout sur les droits d'eau, l'irrigation. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'aspect communautaire. À travers l'étude des droits d'eau, on voyait bien la subsistance, la persistance d'un esprit communautaire chez les irrigants. Et ça m'a toujours intéressé, comment et pourquoi ils arrivent à faire des choses comme ça en communauté. C'est un aspect qui m'intéresse et qui m'intéresse toujours et sur lequel j'ai travaillé par la suite. Donc c'était un peu ça, mais c'était en fait, pour vraiment schématiser, c'était la relation entre la société et le pouvoir. Et ça m'a permis, par exemple, de travailler sur les questions de segmentarité. Notion qui a été très critiquée et tout, mais moi je continue à y croire encore. Avec la simple différence, c'est que je ne considère pas que c'est quelque chose de structurel dans l'histoire d'une société donnée, mais que c'est une modalité du rapport social possible à côté d'autres modalités. Par exemple, un pouvoir tout à fait vertical, autoritaire, etc., où la segmentarité, où il n'y a pas de segmentarité, et où en fait, dans un pays comme le Maroc, je crois que ces modalités, ou ces virtualités de modalités, ont coexisté entre elles. Elles ont coexisté d'une manière ou d'une autre. À certains moments, quand le pouvoir était fort, c'était le pouvoir central qui menait la barque. Quand la segmentarité pouvait revenir, parce que la société a quand même besoin d'un peu d'ordre pour pouvoir fonctionner. Donc, grosso modo, c'est un peu ça l'idée qui m'intéressait, qui m'intéresse toujours, parce que je ne pense pas avoir fait le tour de la question. Il faudrait des connaissances très précises, notamment en matière historique, et ça, malheureusement, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir approfondir. Donc, grosso modo, c'était un peu ça, les idées sur lesquelles je travaillais quand j'étais à Marrakech, à l'office. Ensuite, j'ai continué, parce qu'après l'office, je suis resté jusqu'en 86. Et à partir de 87, je suis venu à Rabat, à l'Institut agronomique vétérinaire. Et là, je continue comme ça. Tu penses que je réponds à ta question?
Oui.
Donc après, ce sont les mêmes préoccupations, mais qui ont concerné plutôt des zones forestières, des zones de parcours. J'ai essayé de faire le même type d'observation et d'analyse. J'ai pas mal travaillé, surtout avec les étudiants, sur les exploitations agricoles et sur les types d'exploitations agricoles, comment elles se reproduisent ou elles ne se reproduisent pas, etc. C'est toujours ce grand thème, relation entre pouvoir et société, qui m'a animé après quand j'ai pris ma retraite en 2005. J'ai fait partie du conseil de l'ONDH, l'Observatoire national du développement humain, qui a été créé en 2008. Mm-hmm. Et là, j'ai pas mal travaillé sur les questions de gouvernance, notamment la gouvernance locale, notamment au niveau communal, tout en travaillant en parallèle sur les communautés locales, notamment en zone de montagne.
Dans l'Atlas.
Dans l'Atlas, mais aussi dans des zones pré-désertiques, notamment du côté de Tata, un peu dans l'oriental, mais très, très vite. Voilà, grosso modo.
D'accord. Je vais revenir juste oui. un petit moment si ça t'embête d'une manière ou d'une autre, on passe à autre chose. Je le sais, parce que parler probablement même par toi à un moment, mais que ton frère aussi est passé par la case prison.
Oui. Alors justement, lui, c'était à partir de février 72, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'était le point de départ de grandes vagues d'arrestations, aussi bien des gens du PPS que de imam,
Il est l'imam,
23 mars, et pour le peuple. C'était les trois mouvements qui existaient. Donc, c'était la première vague avec lui. Ça a duré jusqu'aux années 80, des vagues successives d'arrestations. Ouais.
Mm-hmm. Il est resté longtemps ?
Oui, il est resté 12 ans et demi. Il avait été condamné pour 15 ans. Il est resté 12 ans et demi. De 72 à 84.
Quel était le chef d'accusation ?
Je crois que le point principal, c'était l'atteinte à la sûreté de l'État, ou quelque chose comme ça, il me semble.
Et lui, il a continué en politique, je me trompe.
Oui, il a continué en politique. Il y a le PSU qui a été créé, il y a participé. À partir de, ça c'était les années, je crois, 92 ou 93, tu te souviens ?
La séparation.
Oui. Il a continué, mais ensuite.
On va revenir aux chercheurs, parce que c'est la production des connaissances qui nous concerne le plus, mais on ne produit pas des connaissances par hasard. Tu as beaucoup travaillé sur l'eau.
Oui.
Je sais que tu as beaucoup écrit. On dit souvent que l'eau est le miroir de la société. On ne lit pas dans l'eau ce qu'on lit dans la mare de café, mais qu'est-ce que te dit la gestion de l'eau au Maroc sur la société paysanne marocaine peut-être ?
Particulièrement sur la société paysanne.
Parce que je pense que c'est surtout là-dessus que tu as travaillé.
J'ai travaillé sur les deux. J'ai travaillé sur l'aménagement hydro-agricole.
Oui.
Donc, j'ai longtemps travaillé sur l'évaluation ex ante des zones à irriguer.
Oui.
Pour ensuite avoir la possibilité de voir quels ont été les effets. Comme j'ai fait dans le cas de la TASOC pour ce qui est de ma thèse, j'avais travaillé sur l'aménagement agricole plutôt et ses effets immédiats sur cette zone, en essayant de mettre en lumière les disparités qui existaient avant, mais qui existent de nouveau dans un nouveau système moderniser. C'était un peu ça l'objet principal. Pour ce qui est des zones traditionnelles, j'ai eu l'occasion de travailler surtout à Lounen, c'est dans le Haut Atlas également, dans la région Mrakch, et dans la province d'Azilel. Et là, comme miroir de la société, effectivement, là où il y a de l'irrigation, notamment l'irrigation traditionnelle, on voit bien que le système de droit, qui est une espèce de superstructure, est fondé sur les structures sociales elles-mêmes, soit lignagères, soit simplement par... dans la distribution, par exemple, par quartier, des zones irriguées, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce lien entre les superstructures et les infrastructures sociales, en quelque sorte.
Est-ce que ça t'a permis de comprendre des choses dans le fonctionnement de la société ? Dans ses relations avec le pouvoir, bien sûr.
Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que là où la modernisation n'est pas encore présente, les gens sont en lien direct avec les conditions naturelles, leurs conditions naturelles. Justement, à propos de, pour ce qui est des relations entre le pouvoir et la société, j'ai retrouvé en quelque sorte la base segmentaire de la société locale. De quelle manière ? On a des communautés qui s'occupent de Sagia, qui sont leur bien commun. Et pour avoir de l'eau, il faut s'organiser. Or, nous savons qu'il y a un élément très important en matière d'irrigation, c'est l'amont et l'aval. Bon, ça, tu en sais quelque chose au niveau des pays. Comme, si tu as le temps tout à l'heure, je voudrais poser quelques questions à ce sujet-là. Je ne sais pas si, à ton avis, aujourd'hui, la guerre de l'eau aura lieu ou pas.
Toujours pas.
Hein? Toujours pas. On verra. Voilà, donc c'est un peu la guerre de l'eau aussi. Hein? Et comme on dit, pour préparer, pour éviter la guerre, non, plutôt pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre, ça c'est connu. Et comment on se prépare à la guerre dans des zones comme celle-là, quand le pouvoir est faible, il faut bien que les gens se débrouillent entre eux. Et c'est ça, je pense, la segmentarité. Et j'ai pu retrouver dans une trentaine de communautés, en retrouvant le système d'alliance, c'est un système en damier de l'amont à l'aval. Et moi, je suis par exemple au milieu, j'ai mon voisin immédiat qui risque d'arrêter l'eau, alors je me mets en alliance avec celui qui est avant lui, et ainsi de suite. Et donc, dans les correspondances, on peut voir que le sultan lui-même dit au Qaïd, s'adresse à lui et lui dit tu es membre de telle tribu X, mettez-vous d'accord avec vos frères Y, Z, etc. pour vous organiser pour aller mater telle tribu, par exemple.
Ouais.
Donc c'était un système qui était vécu comme tel, et mon hypothèse c'est que tant que le pouvoir était fort, il pouvait exercer facilement ce pouvoir-là, bien sûr, tout en gardant en tête la segmentarité de la population pour mettre éventuellement telle partie contre telle autre. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de coexistence, avec la prégnance de telle forme plutôt que de telle autre, selon les périodes, selon les époques, selon les circonstances.
Une question qui m'intrigue.
C'est comme ça, on va la commenter.
Oui. Une question qui m'intrigue un peu.
Excusez-moi.
Non, pas de problème, Mohamed. Oui, Mohamed, il est dans l'interview. Il est déjà passé.
Il fera le montage.
Il se repose un peu, on coupera au montage après. Ou alors on va prendre une photo de lui qui dort à côté, on le met dans le montage. Et une petite question un peu. Je ne sais pas, je vais l'oser même, tant pis si elle tombe à plat. Tu as parlé du possibilisme. Je la reprends. Et ma question, est-ce qu'elle est avec, toujours entre guillemets, la modernité? Et notamment pour les sociétés rurales irrigantes.
Irrigantes dans le moderne ou dans le traditionnel?
Dans l'ancien modèle.
Dans l'ancien modèle. Ça existe toujours, au point que sur le plan technique, c'est difficile de changer les situations. C'est pour ça que nous avons ici au Maroc ce que nous appelons la petite et moyenne hydraulique, c'est-à-dire essentiellement des petits périmètres de fond de vallée ou des périmètres en plaine irrigués grâce à des sources, etc. Et là, l'État n'intervient pas. Il intervient juste quelques petites retouches pour essayer de limiter les pertes d'eau. Peut-être des canaux qui sont bétonnés, mais en suivant le cours de l'ancien tracé, sans plus, ils ne touchent pas au droit d'eau. D'accord. Ce qui fait que les gens dans leur vie quotidienne, ils vivent toujours... ces questions d'eau et peut-être d'autres questions en même temps, sur la base de leur propre structure sociale. Et ça, on peut l'observer dans plusieurs périmètres de petites et moyennes hydrauliques.
Aujourd'hui encore.
Des fois à peu près 300 000 hectares, 400 000 hectares ici au Maroc, mais très dispersés, bien sûr.
Est-ce que tu vois une forme de similarité entre la gestion de l'eau courante, des petits cours d'eau, des petits ruisseaux, des petits cours d'eau, donc même de source, et les parcours de pâturage?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a des collectivités où il y a les deux. Réraille, par exemple, moi j'ai eu l'occasion dans la place de voir un peu les étables. Partout pratiquement, il y a une différence quand même importante, je crois, c'est que pour ce qui est des parcours, c'est en train de disparaître, malheureusement. Parce qu'il n'y a plus les dagdal dans pas mal de coins où il y en avait avant.
Tu as aussi fait de l'enseignement, bien sûr, et de l'encadrement. C'est quelque chose que tu as aimé faire, l'enseignement, c'est quelque chose, ça fait partie de ton engagement, ça fait partie...
Oui.
Quel professeur tu étais?
Non, l'enseignement m'a toujours intéressé, de toute façon. Oui. Même à Paris, je faisais de l'enseignement, c'était de l'alphabétisation. Un petit peu à Marrakech aussi pour les infirmiers d'une école d'infirmiers. Et donc quand je suis arrivé ici, bien sûr, ça m'a beaucoup intéressé, sauf les dernières années. À partir de la fin des années 80, ça a commencé à baisser. À partir de 95, 96, 97, ça a commencé. Moi, je suis parti en 2005. Où c'était devenu très difficile parce qu'il fallait comprendre ce que les étudiants écrivaient. Ils n'arrivaient même pas à comprendre ce qu'ils écrivaient. Donc là, évidemment, j'étais complètement découragé. Mais avant, j'ai eu de très bons éléments qui ont fait du bon travail en troisième cycle, pour le troisième cycle. Je les suivais d'assez près. Est-ce que j'étais dirigiste ou pas? J'étais un peu dirigiste au niveau de la salle. C'est que je ne voulais pas que... Je ne voulais pas que... Comment dire? Je voulais qu'il y ait un dialogue constant avec les étudiants, mais sur notre sujet, pas sur autre chose. Donc, dans ce sens-là, j'étais peut-être dirigiste.
Donc, quand il y avait des étudiants qui évoquaient des questions de politique générale, tout ça, tu fermais tout de suite?
Non, 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 pas du tout. Non. Tant que ça avait un lien d'une manière ou d'une autre avec le sujet, bien sûr, pas de problème.
D'accord.
Et pour ce qui est des étudiants, j'ai même trouvé avec beaucoup d'étudiants un plaisir à travailler avec eux, à les faire travailler.
Tu as dirigé des thèses?
Aller sur le terrain. Des thèses de troisième cycle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de thèse de doctorat à l'Institut. Mm-hmm.
Comment tu expliques cette chute de niveau dont tu parles? Est-ce que tu as une explication?
Je n'ai pas d'explication spéciale. Parce que, l'explication qu'il y a, c'est que pendant pas mal de temps, pour ce qui est de la génération... de notre génération, de celle qui a suivi immédiatement, c'est 20 ans après, mm-hmm. si tu veux, ouais. On recrutait toujours des gens qui venaient à peine de sortir qui venaient à peine d'obtenir leur bac. Ouais. Et pour ce qui est du secondaire, du premier cycle. Et pour le primaire, c'était des gens qui n'avaient même pas le bac. Alors, il est tout à fait normal que ça ne marche pas. Donc, je crois qu'il y a cet élément-là qui est mmh. important. Le deuxième, c'est qu'il y a eu quand même aussi l'influence islamiste. Je crois que c'est quelque chose d'important.
À partir du milieu des années 90?
Même avant, à partir des années 80, je pense, à partir de la fin des années. Mmh. 80, il y a quand même aussi cette influence qui est importante.
Qui a touché l'école.
Et qui a touché l'école. Je parle du point de vue pédagogique.
Oui,
même pas, je ne parle même pas du contenu, du fond. Mais sur le plan pédagogique, le fait qu'il faut simplement apprendre par cœur, que tu comprennes ou pas, tu apprends par cœur, c'est tout. L'apprentissage par cœur, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors il est normal que le niveau baisse.
Et ça continue, ça?
Eh bien, apparemment, ça continue. Il y a eu les derniers chiffres, là. Je ne me souviens pas des chiffres, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas faire des opérations de calcul élémentaire. Qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, je peux les retrouver. Hein. C'est
pas non, je ne les ai pas.
Oui, mais c'est des chiffres assez alarmants quand même. Alors, apparemment, il y a un esprit de réforme actuellement, depuis, avec ce nouveau gouvernement, de nouveau, mm-hmm. on parle de... On ne sait pas trop encore, et on insiste beaucoup sur la qualité, de l'enseignement, parce qu'effectivement c'est le point faible principal. Mais je ne sais pas si on va trouver des
solutions. Tu penses qu'il y a encore une chance? Objectivement.
On a été tellement découragés à chaque fois que c'est très difficile de dire qu'on a une chance.
Le problème est politique?
Ah oui, il est fondamentalement politique. Il faut soit une véritable mobilisation et une volonté politique très forte, extrêmement forte, y compris à la télé, par exemple. À la télé, nous avons 2 heures ou 3 heures, par exemple, de séance à travailler sur tel ou tel aspect. Il y a un discours du chef de l'État pour dire qu'il faut suivre ce qu'il y a à suivre, etc. Alors, ou bien on a cette mobilisation, ou bien c'est le système coréen qu'on n'arrête pas de louer, mais on oublie parfois de dire que c'est parce qu'il y avait une dictature. Voilà, donc évidemment, on préfère la mobilisation, mais il faut qu'elle soit sérieuse. Si elle n'est pas sérieuse, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas qu'il y ait un seul ministre qui s'occupe de ça. On a un ministre de l'éducation, c'est lui qui va réformer, il ne va pas réformer comme ça. Il faut que ce soit toute la nation, toutes les volontés. Et il faut imaginer des moyens pour que ça entre vraiment dans la tête des gens. Qu'un paysan, disons, dans un bled perdu, sache qu'il doit faire instruire son enfant et qu'il le fasse effectivement, avec tous les moyens qu'il faut bien sûr, etc. Mais si on ne fait pas ça, on va continuer de la même manière. On va simplement dire, on encourage, on laisse le privé s'occuper petit à petit, le public se retire petit à petit, et puis point final.
Une sorte de désengagement carrément par rapport à l'enseignement.
Ça peut être une sorte de désengagement s'il n'y a pas cette mobilisation.
D'accord.
Il faut que ça soit une valeur suprême dans le pays. Tant que ça ne sera pas une valeur suprême, on ne pourra pas avancer.
Pour le moment, on n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas. Il y a des gouvernements qui se sont succédés. À chaque fois, on nous dit qu'il y a une réforme. On va réformer. Et on choisit une méthode, puis il y a un autre gouvernement qui arrive. Il dit que tout ça, c'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, et ainsi de suite, continuellement. Mais il n'y a pas de mobilisation pour dire voilà ce que le Maroc doit être dans 30 ans. Une génération au plus. Voilà ce à quoi on doit arriver, voilà quels sont les moyens, voilà quel est le système de sanctions pour ceux qui ne veulent pas suivre cette voie. À ce moment-là, ça marchera peut-être.
On va revenir au milieu agricole. Et là, on arrive à la fin de l'interview. C'est quoi la place et le rôle de la paysannerie dans le futur, maintenant et dans le futur?
Moi, je crois qu'il n'y a plus de paysannerie au Maroc.
Il n'y a plus de paysannerie au Maroc?
Non. Il y a... Le problème, c'est que conceptuellement, on n'arrive pas à trouver le terme qu'il faut. Mais quand tu as des familles, et c'est la majorité des cas, qui ont des revenus qui sont aussi bien des revenus de la terre, et souvent très insuffisants, que des revenus apportés de l'extérieur ou dans d'autres secteurs, industrie, commerce, etc., est-ce qu'on peut encore parler de paysannerie dans ce cas? Parce que la majorité des familles, d'ailleurs aussi bien les plus pauvres que les plus riches, dans le traditionnel, pas dans le moderne, travaillent aussi bien, travaillent leur terre, mais les revenus sont insuffisants, donc les membres de la famille sont obligés de chercher d'autres revenus, soit par l'immigration temporaire, soit par des emplois qu'ils peuvent trouver plus ou moins dans leur environnement. Ouais. Souvent, ils vont en ville. Et en fait, on a des familles qui sont toujours, je dirais pas dédoublées, mais presque, parce que le chef de famille ou l'un des membres de la famille est ici à Rabat, par exemple, concierge pendant toute l'année. Il va juste passer quelques jours de fête avec sa famille. Le reste de la famille est dans le bled. Et peut-être qu'il y a d'autres membres qui vont encore aller chercher ailleurs. Il y a plus de pluriactivité que d'activité paysanne. C'est la pluriactivité aujourd'hui qui prédomine dans les campagnes marocaines, pas seulement marocaines, je suppose que c'est comme ça dans d'autres pays également, notamment les pays du Maghreb. Ouais. C'est pour ça que quand on parle de paysannerie, de toute façon, ce n'est plus ce qu'elle était avant. C'est-à-dire simplement l'agriculteur qui vit en autarcie, qui s'autosuffit à peu près, etc. Il y a eu toujours du commerce, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Oui. Mais le revenu principal, c'est le revenu qui vient d'extérieur. Dans les oasis, j'avais eu l'occasion d'enquêter un peu dans les oasis, notamment dans la région de Tata, la part de revenus de la terre, c'était 10% dans un certain nombre de foyers. Tout le reste vient de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là encore du paysanisme ? Je ne crois pas. Alors, en plus, on a toujours dit, et on a raison jusqu'à un certain point, que la population rurale va pratiquement rester stable encore pendant quelque temps. Je ne sais pas lequel. Pourquoi elle reste stable ? Parce qu'en fait, il y a de la mobilité derrière. Il y a les gens qui vont justement en ville, qui vont chercher des revenus ailleurs, etc. Mais c'est un mouvement qui risque, c'est une situation qui risque maintenant de changer progressivement, parce que je pense que avec les terres collectives par exemple, hein, puisque les terres collectives avaient aussi cette donner la possibilité aux agriculteurs de rester malgré tout chez eux. Maintenant, on parle de melkisation des terres collectives. Alors, avec l'idée de créer une classe moyenne rurale. Mais en fait, ce qui est derrière ça, je pense, c'est qu'on va créer, une fois que les terres deviennent merc, il y aura un marché foncier. Et tous ceux qui ne peuvent pas vivre simplement de leur terre, ils vont les vendre. Et ça ne va pas aller à la classe moyenne. Ça va être autre chose. Ça sera une classe, disons, peut-être moyenne supérieure et la classe supérieure qui vont s'approprier ces terres. Ce qui veut dire aussi que à terme, la campagne va quand même se vider un peu. On ne peut pas dire maintenant jusqu'à quel point, etc. Mais il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait moins d'agriculteurs qu'avant.
Il y en a qui vont être contents, non ?
C'est possible, bien sûr. S'ils trouvent des emplois, ils seront contents.
Non, je parle des autres, ceux qui vont prendre la terre. Les investisseurs éventuellement.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. On a fait ça pour stimuler le marché foncier,
ouais.
Essentiellement, à mon avis. Même si on parle par ailleurs de classe moyenne, c'est plus pour stimuler le marché foncier que pour créer une classe moyenne.
D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, c'est quoi l'avenir ? Est-ce que tu peux dire l'avenir de l'agriculture marocaine ? Et surtout, sur cette question précise, de l'indépendance alimentaire. J'ai tendance à parler de souveraineté alimentaire, mais ce ne serait-ce que de l'indépendance alimentaire. Est-ce que l'orientation actuelle de la politique agricole va dans ce sens ?
Non, je ne pense pas. Disons que on a tablé surtout sur l'irrigation depuis l'indépendance. Et donc on a fait de grands efforts en matière de construction de barrages, équipement de périmètres irrigués, etc. Mais on s'est très peu occupé du reste des terres, des terres non irriguées, des terres, ce que nous appelons ici les terres bourgs. On s'en est pas beaucoup occupé. Il y a eu bien sûr énormément de travaux, par exemple en matière de d'aménagement de bassins versants, en matière de aussi d'encouragement à l'agriculture dans ce qu'on appelle ici les terrains favorables, ouais. Essentiellement ceux qui disposaient de plus de 400 mm d'eau par an, de pluie, de pluie par an. En fait, on a mis le paquet sur l'irrigué. De temps en temps, on se souvient du bourg, mais pas suffisamment. On n'a pas adopté une politique dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire une politique basée sur une stratégie. Et sur une stratégie avec un terme défini à l'avance, comme on avait fait pour l'irriguer. Pour l'irriguer, c'était clair, on avait dit, bon, on met le paquet sur l'irriguer, en 2000, il faut qu'on obtienne le million d'hectares.
Ouais.
En fait, c'est plus d'un million, hein, c'est un million.
Mais 600, 1 600 000.
Moi, je dis 1 500 000, parce qu'il y a des chiffres, mais ils diffèrent un peu. Donc, presque 1 000 000 de grandes hydrauliques ou de grands pompages. Et le reste, c'est ce qu'on appelle de la petite et moyenne hydraulique ou encore ou bien de l'irrigation occasionnelle, sans aménagement, etc. Alors, une petite anecdote, entre parenthèses, mais vous le savez peut-être, pourquoi on parlait de 1 000 000 d'hectares ? Parce qu'à l'époque, qu'on faisait de la publicité sur l'irrigué, les barrages, etc. Et Abdou Abdoukali a chanté une chanson où il a parlé du million d'hectares.
Abdou Abdoukali.
Oui, alors du coup, on a gardé le chiffre, 1 000 000 d'hectares. Bon, ça, c'est de l'anecdote. Donc, on a mis le paquet sur l'irrigué, mais on n'a pas fait la même chose pour le bourg.
C'était une erreur de mettre le paquet, comme tu dis, sur l'irrigué.
Non, je ne dis pas que c'était une erreur. C'est un acquis important. Ça dépend de ce qu'on en fait. Parce que c'est là où il y a le plus d'investissement. C'est là où il y a les cultures d'exportation. Parce qu'on parle d'autosuffisance ou aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Mais en fait, il y a une bonne partie qui est simplement réservée à l'exportation pour obtenir des devises, etc. Et pour enrichir ceux qui produisent ces produits-là. La grande majorité des petits agriculteurs ne bénéficient pas de cette politique parce qu'ils sont petits déjà, parce qu'ils ont des petites surfaces. Mais ce n'est pas de cela que je parle de ceux qui ne sont pas, des terrains qui ne sont pas irrigués, qui sont la majorité.
Ouais.
La majorité, 1 500 000, c'est irrigué, et le total c'est 9 millions, c'est-à-dire 7 millions et demi à peu près de terrains
non,
et qui devraient constituer, disons, l'objet également d'un effort véritable. Pour l'agriculture, mais aussi pour les parcours, l'élevage, et aussi pour les forêts. Mmh. Tout ça va ensemble. Il faut des plans, disons, qui concernent toutes ces surfaces-là pour pouvoir assurer la souveraineté alimentaire.
Les changements climatiques.
Oui.
Est-ce que c'est un véritable risque ? Est-ce que c'est un discours ? Est-ce que c'est...
Non, ce n'est pas un discours, c'est un véritable risque. D'ailleurs, nous le vivons.
Tu le vois cette année. Tu le vois ?
Oui, on le voit, oui, bien sûr.
Comment ?
On le voit. Ben, bientôt, c'est ce qui était arrivé en 1981-1985, ce qui était une période aussi de sécheresse. J'étais en voiture, je revenais de Souera. Quelqu'un m'a arrêté sur la route et il m'a dit qu'il avait 6 ou 7 enfants. Est-ce que je voulais en prendre un ?
C'était quand ?
C'était dans ces années-là,
85.
Oui. C'est ce qui risque d'arriver cette année.
Et tu crois que c'était sincère ? Ils voulaient vraiment ?
Certainement. On parlait surtout des gens qui abandonnaient leur bétail dans des sources. Mais là, c'est les enfants. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver cette année. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, évidemment. Mm-hmm. L'année dernière, par exemple, on a eu une récolte de 93 millions de quintaux. Cette année, on risque d'avoir à peu près 30 millions. Mais dans les projections budgétaires, on a compté, je crois, autour de 50 millions. Mais là, il va falloir réviser ce budget, puisqu'il ne va pas correspondre à la réalité cette année. Mmh. On a toujours dit qu'il faut accorder la priorité aux céréales, parce que c'est la base de la vie rurale, et de la vie pas seulement rurale, mais évidemment citadine aussi. C'est l'aliment principal. Ça, on l'a toujours dit. Et c'est pour ça que même dans l'irrigué, il faut voir la part à donner aux céréales, il faut la réviser.
C'est possible? Il faut faire marche arrière maintenant?
Non, ça ne serait pas une marche arrière, ça serait une conversion, tout simplement. Mais bien entendu, il y a des intérêts qui sont en jeu, notamment des grands producteurs de fruits, de légumes, choses comme ça. Fruits, légumes qui sont plantés pour... fruits et légumes pour l'exportation.
Oui. Bien sûr. Une dernière question pour conclure. Abdallah Harzani, le chercheur, le militant politique à un certain moment, l'engagé toujours. Est-ce que tu peux, c'est une question un peu bête, pardon, mais voilà, comme ça, est-ce que tu vois l'avenir, comment tu vois l'avenir du Maroc? Est-ce que tu le vois? Comment tu le vois?
Je me suis toujours dit depuis pas mal de temps que nous avons plus de chance que nos enfants. Ça, je me suis dit, je suis à peu près certain, parce que nous l'avons vécu dans nos familles, etc. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents maintenant qui sont à la recherche d'emploi, qui n'arrivent pas à en trouver pour telle ou telle raison. Nous savons qu'ils ont été moins bien instruits qu'à notre génération. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce qu'il y aura un sursaut? Dans quel sens? La réponse est difficile. Je ne peux pas répondre facilement à cette question. Parce que je crois que pour arriver malgré tout, faire face au problème du changement climatique et tous ses effets, parce que maintenant c'est le problème central, le problème fondamental, s'il n'y a pas une véritable, un véritable développement humain, puisqu'on parle de développement humain, hein, tout le monde parle aujourd'hui de développement humain, il faudrait que ça soit un véritable développement humain. Ce qui suppose que les dirigeants sont tout à fait dévoués à atteindre un certain niveau de, disons, un certain niveau de vie, disons, potable, et de faire tout le nécessaire pour ça. Avec la société, bien entendu. Maintenant, c'est un peu banal ce que je dis, mais en fait, s'il n'y a pas cette volonté d'arriver avec la société à un stade où chacun pourra, disons, profiter de la vie, ne serait-ce que de façon modeste, mais quand même... acceptable, si on n'y arrive pas, on perdra tout, je pense.
J'ai juste une toute dernière question, elle est un peu brutale. Est-ce que tu penses, aujourd'hui, que tu as été utile ?
Est-ce que j'ai été utile ? Je crois que j'ai été utile pour les étudiants.
Oui.
J'ai été utile aussi pour ma zone, même si ça a été un peu ingrat. Mm-hmm. Parce qu'il y avait beaucoup de litiges, c'était difficile de pouvoir dissiper tout ça. Mais je pense qu'au total, j'ai été utile et je dirais même, j'étais tellement été utile que je suis devenu inutile dans la zone. Et ça, c'est l'espoir du bon animateur, si tu veux, du bon développeur,
ouais.
Quand il travaille avec les gens, c'est qu'il apporte son soutien. Mais après, il se retire.
Ouais.
Et quand il voit que ça a réussi, ils sont
là.
Voilà, je pense avoir tout dit.